Parmi les nombreux noms de Dieu, il y en a un dans l'Ancien Testament qui fait toujours un peu frémir. C'est Dieu qui est appelé l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et il est vrai qu'on peut justifier toute chose, mais il faut bien dire qu'à première vue, l'Ancien Testament nous apparaît quand même comme fondamentalement guerrier. Ça choque beaucoup de chrétiens d'ailleurs. Toutes ces violences, tous ces meurtres, toutes ces guerres, toutes ces choses épouvantables qui parsèment l'Ancien Testament d'un bout à l'autre, beaucoup de chrétiens sont embarrassés pour savoir qu'en faire. Et il est vrai qu'en opposition à cela, nous voyons dans le Nouveau Testament un message de paix, voire de non-violence, et il est compliqué de faire le lien entre les deux. Que l'Ancien Testament soit violent, on ne peut pas le nier. Certes, du début à la fin, ce sont des récits de conquête. Les grands rois Saül, David étaient des rois guerriers, et même en amour, ils étaient d'une violence inouïe. David, pour avoir le droit d'épouser sa femme, va comme ça, dans l'après-midi, tuer 200 Philistins et ramène à son beau-père une montagne de prépuces pour essayer d'avoir le droit d'épouser sa femme. Et avouez que c'est d'une cruauté absolument incroyable. Et à l'opposé, Jésus, qui vient prêcher, dès le départ dans l'évangile de Matthieu, il nous donne une sorte de plaidoyer pour une non-violence absolue. Jésus qui dit « Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite ». Jésus qui dit dans ce même sermon sur la montagne « Ne résistez pas aux méchants, donne à celui qui te demande, si on te vole ton manteau, donne aussi ta tunique ». Jésus qui, à la fin de sa vie, lorsqu'il est arrêté dans le jardin de Gethsémané, et que Pierre veut sortir son épée pour défendre son maître, Jésus lui intime de rentrer son épée dans son fourreau, et il lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Alors je vous vois déjà un petit peu craindre une sorte d'exposé théorique sur... essayant de noyer un peu le poisson et de dire « mais en fait, l'Ancien Testament a quand même un peu de paix, il y a quand même un peu de violence dans le Nouveau, et après tout, il faut aussi un peu de violence dans la vie ». Mais je ne voudrais pas rester dans la théorie, parce que je crois que tout cela est une réflexion qui nous touche très profondément. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas simplement un questionnement historique, mais c'est aussi... toute une théologie qui est en cause. Parce qu'en effet, si on regarde même au premier abord, il y a dans l'Ancien Testament, au premier regard, vous disais-je, une théologie qui est une théologie de la violence, c'est-à-dire une théologie de la rétribution, de la punition, de la menace, une théologie de la justice et une théologie de la violence, effectivement. Et le Christ... Ne plaide pas simplement la non-violence, je dirais, dans la vie quotidienne, mais il prêche une théologie de la grâce, du pardon et de la tendresse. Donc déjà, dans cette réflexion, il y a de véritables enjeux théologiques, fondamentaux, essentiels. Et plus que cela, c'est aussi ce qui est en jeu, c'est notre attitude dans la vie par rapport aux autres. C'est-à-dire que Dieu... s'il est notre idéal, est aussi notre modèle, et je crois que l'on agit finalement dans le monde un petit peu conformément à ce en quoi l'on croit. C'est-à-dire que ce en quoi l'on croit, ce en quoi l'on met notre confiance, ce qui pour nous semble essentiel et fondamental, eh bien finit par déteindre de l'intérieur sur nous-mêmes, et nous finissons par être des incarnations de notre foi. Et donc nous sommes, je crois, les incarnations de ce en quoi nous croyons, d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce en quoi nous croyons. Et si l'on croit dans un Dieu de violence, de force, alors on agit avec force et violence. Si on croit dans un Dieu de pardon, de grâce et de tendresse, alors j'espère que l'on agira dans ce sens. Et ça va même encore plus loin, vous disais-je, parce que cette foi que nous avons est aussi l'enjeu de la question de savoir comment nous allons réagir dans ce monde par rapport au mal, par rapport à l'adversité, par rapport à l'épreuve et par rapport à la difficulté. Et je pense justement que dans ce domaine, une théologie de la grâce, une théologie de l'amour, comme celle du Nouveau Testament, nous invite non seulement à faire preuve de, je dirais, de tolérance, d'amour et de grâce vis-à-vis de nos prochains, mais aussi vis-à-vis des événements qui nous touchent. Et donc c'est quelque chose d'essentiel de savoir comment on réagit à la contrariété, comment on réagit par rapport à l'épreuve, par rapport au mal. Quelle est la bonne méthode pour réagir par rapport à cela? Et moi je pense, et je plaide aujourd'hui pour, je dirais, la non-violence absolue pratiquement, je pense que l'Évangile nous invite à réagir dans ce monde, donc par rapport à l'adversité, non pas par la violence, non pas par le combat, mais de réagir par la douceur, par la tolérance, par le fait d'accepter les choses avec gentillesse, avec patience, et de laisser faire en quelque sorte. Mais est-ce que vraiment on doit absolutiser cela, effectivement, et dire je dois opposer la théologie de l'Ancien Testament à celle du Nouveau? Eh bien, peut-être, finalement, peut-être un peu quand même. Alors, que ferons-nous de l'Ancien Testament? Dirons-nous que l'Ancien Testament est archaïque et primitif? Je vais y revenir, mais dans une première approche, oui, je vais le dire, voilà. Effectivement, moi, ma foi, elle est en Jésus-Christ. Et le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu d'amour, de pardon, de tendresse et de paix. Et ça n'est pas le Dieu de Moïse, je dirais, qui tue tous les premiers-nés pour faire sortir son peuple d'Égypte. Je choisis une fois pour toutes mon camp, et mon camp, c'est celui de la grâce et de la paix. Et je crois d'ailleurs que le Nouveau Testament, de ce côté-là, est très profondément original par rapport à beaucoup d'autres religions. De prêcher la grâce, l'amour et la paix. Et j'avoue que, après avoir longtemps réfléchi à toutes ces questions, et même, j'ai prêché ici sur la justification de la guerre, vous savez, un théologien peut tout justifier, mais là je parlerai avec mon cœur, et je vous dirai que plus je vieillis, et plus je suis convaincu que la non-violence est vraiment la seule solution pour l'humanité. Je crois que la violence ne fait qu'aggraver la violence. Je crois que de vouloir résoudre une violence par une autre violence est toujours dangereux. Et même quand on relit l'histoire et que je regarde, moi, l'histoire, quand je lis les livres d'histoire de France de mon enfance, et que je vois que l'histoire de France n'est vue que comme une succession de guerres, je trouve ça effrayant, pour tout vous dire. Et si on regarde encore plus près ce qui s'est passé dans le XXe siècle, j'ai la faiblesse de préférer Gandhi à Dien Bien Phu. Et je pense même que, finalement, la non-violence de l'Inde, et de Gandhi et de tout son mouvement, finalement, vaut peut-être mieux que la guerre d'Indochine et que celle d'Algérie réunies. Mais je ne vais pas m'engager dans des problèmes géopolitiques qui ne sont pas de mon ressort, donc oui, le pasteur est un vieil idéaliste, mais je maintiens que cet idéal de non-violence me poursuit de plus en plus. Parce que je crois que la force de Dieu, en tout cas, c'est l'amour et la parole. Et je crois que c'est ça qui peut changer le monde, plus que la force et les armées. On croyait jusqu'au XIXe siècle que quand il y avait un différend entre deux personnes, on faisait un duel et que c'est le plus fort qui avait raison. Mais c'est monstrueusement préhistorique. Pourquoi ce serait le plus doué aux armes qui aurait raison contre l'autre? Et pense-t-on vraiment aujourd'hui que le pays qui aura raison dans le monde sera celui qui aura plus de bombes atomiques que le voisin? Je pense que de toute manière, si on joue le jeu de la violence, le plus fort au total et au final sera celui qui est le plus méchant. Et donc je ne voudrais pas que le monde devienne le lieu de l'affrontement entre la force et la violence, et je ne crois pas que par la force et par la violence, on puisse transformer le monde. Alors on parle effectivement de l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament. Certainement y avait-il une idée un peu belliciste à l'origine là-dedans. Mais quelle est l'armée de Dieu ? Dans le Nouveau Testament, on l'a lu tout à l'heure, on parle de ces armées célestes au moment de la naissance de Jésus. Et ces armées célestes, ce sont quoi ? C'est une armée d'angelots. Tu parles, quelle violence ! Oh, j'ai peur des anges, des petits bébés avec des ailes qui jouent de la trompette. Il n'y a pas de quoi partir en courant. Eh bien, cette armée d'angelots, je le crois, peut laisser pantois le monde. Et ça, c'est évidemment une idée très profonde du Nouveau Testament, c'est que ces anges, finalement, sont des bébés. Ce n'est pas dit dans le Nouveau Testament, c'est une idée de l'Église plus tardive, je crois, de représenter les anges comme des petits-enfants. Dans l'Ancien Testament, il est bien dit à maintes reprises que l'armée de Dieu, cette armée avec laquelle il agit, ce sont des anges. Bon, simplement, les anges, dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas bébés. Ils sont grands et ils ont des épées en plus. Enfin, les anges de l'Ancien Testament ne sont pas toujours très aimables. Dans le Nouveau Testament, les anges sont moins armés et la tradition a dit que ces anges, ce sont des bébés. Et je crois que là, pour une fois, la tradition de l'Église a vraiment exprimé ce qui est le fond de la foi de l'Évangile. Et en particulier, on le voit au moment de la naissance de Jésus, la grandeur de l'Éternel des armées, dans Luc, se révèle dans un petit bébé qui vient de naître, totalement vulnérable et inoffensif. Et les chrétiens ont eu raison de dire que les anges, cette armée de Dieu, ce sont des petits bébés joufflus comme le bébé de la crèche. Ils ont raison, parce que je crois que la seule chose qui pourra un jour transformer le monde, c'est la tendresse, c'est la grâce, et c'est l'amour et la douceur. Que tout le reste ne fait qu'aggraver les choses. Et la naissance de Jésus-Christ en est la preuve. Eh bien, en théologie, c'est pareil. Je crois et je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule chose possible, une seule prédication possible, c'est celle de la grâce. Celle de la grâce. Certes, on peut dire, ah mais oui, mais pour que les gens soient sages, il faut peut-être les menacer un peu, il faut leur faire un peu peur, sinon ils vont profiter de la grâce. Eh bien, peut-être y aura-t-il des pertes en ligne ? Mais le seul message possible au nom de l'Évangile, c'est celui de la grâce, celui du pardon et celui de l'amour. Il n'y en a pas d'autre possible. Il n'y en a pas d'autre. Et l'Évangile prend ce risque. Risque au risque de l'injustice. Mais oui, on le voit. Jésus qui se laisse crucifier sur la croix, n'est-ce pas la plus grande des injustices ? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut la justice, où on veut l'amour et la grâce. Jésus choisit pour l'amour et la grâce. Et donc la justice, vous la laissez à d'autres. Vous la laissez aux bourreaux avec leurs haches, leurs épées, leurs guillotines, leurs machins et leurs trucs. Jésus choisit la grâce, le pardon et la paix. C'est tout. Il faut savoir dans quel camp on se met. Le pardon, valeur absolue, et une théologie de la grâce. Pas de rétribution, pas de menace, pas d'enfer, pas de purgatoire, pas de jugement. Tout cela, vous le laissez sur le tympan des cathédrales du Moyen-Âge. On n'est plus au XIIe siècle. Nous revenons au message absolu de l'Évangile, qui est celui de la grâce. Dieu vous aime, Dieu vous sauve, Dieu vous donne son salut, son amour et sa présence et sa douceur. Je crois que la religion ne peut pas être une religion de menace, ni une religion de peur. Et même, dirais-je, cette réflexion m'a amené à être encore plus radical que je ne le pensais. J'ai souvent pensé qu'il y avait quelque chose de l'ordre du combat dans la foi. Je combats contre le mal qui est en moi, Je ne veux pas nier qu'il y ait une forme de combat dans la vie. Contre le mal, contre l'injustice, oui, mes propos deviennent trop radicaux, je m'enflamme, certes, mais néanmoins, je me demande s'il ne faudrait pas pousser encore plus loin cette non-violence évangélique en disant que même la foi n'est pas un combat et la foi ne doit pas être vécue comme un combat. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est le don. La foi, c'est la réception d'un don. La foi, c'est de se laisser aller dans les bras d'un père ou d'une mère tendre. La foi, c'est de dire « Merci Seigneur » et d'accepter enfin d'arrêter sans arrêt de combattre dans ce monde, de combattre contre sa faiblesse, de combattre contre sa tristesse, de combattre contre ses malheurs, de combattre contre l'adversité. La foi, c'est de dire « Oui Seigneur, Amen, merci, je crois en toi et j'ai confiance en toi ». Et je pense que, justement, quand on parle de la grâce, la foi, c'est la réception d'un don. La foi, c'est simplement de donner sans se battre, de laisser aller, de lâcher prise. Et donc, il n'y a pas de jugement là-dedans, pas de rétribution. Il n'y a pas de « c'est bien fait pour toi ». Non, si on est dans le combat, on n'est plus dans l'amour ni dans la foi. Parce que je ne sais pas quelle est votre image, de votre idéal de l'amour. Moi, même dans la famille, même dans le couple, même humainement, mon idéal de l'amour, ce n'est pas le combat. Mon idéal de l'amour, c'est la confiance, c'est la tendresse et c'est le confort. Et c'est la paix. C'est ça dont nous avons besoin. Et c'est même aussi vrai dans notre rapport aux autres. Notre attitude de chrétien, c'est simplement de pardonner, d'aimer et de servir. Et pardonner, c'est tout le contraire de la vengeance. Si on te prend ton manteau, dit Jésus, donne aussi ta tunique. C'est injuste. Et j'encourage le méchant à être méchant ? Peut-être, peut-être pas. Et même par rapport aux événements, je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi une attitude non violente par rapport aux événements de notre vie ? Et est-ce que la sagesse évangélique n'est pas justement de dire, écoutez, arrêtez pour une fois de vous battre sans arrêt contre ce qui arrive dans le monde. Il faut avoir l'amour de la création jusqu'à aimer tout ce qui nous arrive. Et en effet, la sagesse, de toute façon, c'est d'accepter ce contre quoi on ne peut rien. C'est de toute manière la seule façon d'être heureux. La sagesse, c'est de se dépréoccuper, de laisser faire. La vie n'est pas un combat, et d'ailleurs, sans cesse, l'Évangile nous invite à la patience. Patience, dit l'Évangile, patience, patience, patience. La patience, c'est pas de combattre, c'est de dire, laissez faire, de toute façon, Dieu est plus grand. Laissez faire, de toute façon, vous avez la vie. Laissez faire, de toute manière, vous avez confiance. Et la patience dans la vie, c'est une forme d'amour. Quand on dit « un tel, il aimait la vie », il aime la vie jusqu'à ce qu'il soit malade. Quand il est malade, il n'aime plus la vie. Eh bien, ça veut dire qu'il n'aimait pas la vie. Aimer la vie, c'est aimer la vie comme elle est. Ça, c'est un vrai gage d'amour, je dirais, non seulement pour les autres, mais aussi pour les événements. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie. Il faut aimer sa vie comme elle est, aimer les autres comme ils sont, il faut aimer, 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 et le reste n'est rien que des choses diaboliques. Alors du coup, est-ce que vraiment je devrais abandonner l'Ancien Testament et considérer qu'effectivement il y a un gouffre radical entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on devrait garder que le Nouveau? L'Église s'est toujours opposée à cela. Et comme toute hérésie et chose effroyable, l'Église a donné un nom à cette horreur, on appelle ça le martionnisme. C'est pas bien, faut pas abandonner l'Ancien Testament. Peut-être d'abord qu'il faut garder un peu les deux, parce que, je vous l'ai dit, mes propos sont là idéalistes, excessifs, et certainement peut-il y avoir une part de combat dans la vie. Certainement faut-il qu'il y ait dans notre société des juges, des policiers, faut-il qu'il y ait des armées avec des canons et des bombes atomiques, enfin là je ne sais plus très bien, mais en tout cas on ne peut pas réduire l'Évangile au pacifisme à tout craint. D'ailleurs tout le monde connaît les deux versets anti-pacifistes de l'Évangile, il n'y en a pas dix, hein. Il n'y a que deux passages. Il y en a un où Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Bon, voilà. Un autre où il dit « Je suis venu apporter la division entre le père, la mère et tout ça. » Et puis Jésus, qui, avec les marchands du temple, est pris d'une sainte fureur et renverse les tables, se fait un fouet avec des cordes et chasse tout le monde, ce qui n'est pas très pacifique, il faut le dire. Bon, mais c'est la seule chose. Mais cela dit, ça me montre à moi que, d'accord, j'admets que tout soit complexe, qu'on ne puisse pas résumer l'Évangile par la non-violence absolue, ce serait une forme d'idolâtrie. Il peut y avoir des situations de violence et il y a dans ce monde des combats à mener. Je l'admets, je sais, il y a des combats à mener. Mais néanmoins, lisez l'Évangile, eh bien il y a 99% de non-violence et 1% de violence. Donc il ne faut pas non plus inverser les proportions. Donc l'Évangile est comme cela, certes. La vie du chrétien est une lutte permanente et nous le savons. Et d'ailleurs, si ce n'est, je dirais, par rapport aux gens, si ce n'est politiquement, si ce n'est même par rapport à nos épreuves, le chrétien doit pas non plus tout laisser passer. Il doit se considérer, je dirais, comme une force d'action, d'intervention dans ce monde pour apporter précisément de la paix et de la grâce. Et c'est vrai que toute cette tradition protestante du XIXe siècle, d'où est née l'armée du salut, est à quelque chose d'absolument essentiel. Et tout ce thème guerrier du XIXe siècle, debout sainte cohorte, considérez-vous comme l'armée du roi des rois, est important. Parce que, certes, la foi n'est pas que, je dirais, que confort personnel, c'est aussi une invitation à l'action. Et il peut y avoir même, je dirais, dans l'amour, une forme de combat. Gandhi était non-violent, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été un combattant pour certaines causes. Donc certes, j'aime, je dirais, cette armée du salut qui n'est armée que de trombones, de flûtes et de choses comme ça. Vous ne ferez pas grand mal à grand monde. Mais néanmoins, il est vrai qu'il est important pour les chrétiens de s'organiser pour un certain combat. Mais ce sont pour des choses psychologiques, psychiques, spirituelles plutôt. Le combat physique est moyenâgeux. Et je crois que la force de la civilisation, c'est le dialogue et c'est l'intelligence, et que les armes du chrétien, eh bien les armes du chrétien, s'il y a une guerre à mener, Paul les donne dans sa lettre aux Éphésiens, c'est la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Voilà, donc d'accord, nous sommes tous les soldats du Christ, mais les choses sont remises à leur place. Et donc une guerre, d'accord, plus ou moins, et je veux bien réhabiliter l'Ancien Testament en ce sens qu'il nous donnerait cette dimension de combativité que nous devons avoir dans le monde. Mais l'Ancien Testament, il faut quand même le lire avec intelligence et éviter les clichés. Éviter les clichés parce que quand on lit l'Ancien Testament, tout le monde nous dit « c'est un livre belliqueux, c'est un livre violent ». Bien écoutez, moi je le lis, je le relis, et j'ai pas ce sentiment, pour tout vous dire. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas des batailles, mais c'était une période belliqueuse. Mais je trouve au contraire que l'Ancien Testament a une vision de la guerre incroyablement moderne et évangélique. C'est tout à fait extraordinaire. D'abord, citez-moi une seule grande bataille dans l'Ancien Testament qui ait fondé le peuple d'Israël. Aucune. Ah si, Jéricho, ah oui, des trompettes qui tournent et qui font tomber des murailles, bon, pas de bataille. Et même, disent certains auteurs, le peuple d'Israël, qui au lieu de se fonder sur une grande victoire guerrière, comme tout le monde le fait, tous les peuples au monde célèbrent les jours où il y a eu une guerre, une bataille, une victoire, on célèbre la guerre de 14, la victoire de 18, de 45, le 14 juillet. Le peuple hébreu se définit comme le peuple, que plutôt événement fondateur du peuple hébreu, c'est sa situation en Égypte où il était esclave, maltraité, maudit et chassé. C'est quand même étonnant. Et ce que dit sans arrêt l'Écriture, « Souviens-toi que tu étais esclave et malheureux en Égypte. » L'élément fondateur du peuple hébreu, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. C'est de se dire « Je suis faible, j'ai été vaincu, j'ai été maltraité, j'ai été esclave. » C'est pas j'ai gagné, j'ai violé tout le monde et j'ai pillé les restes. J'ai été maltraité, j'ai été vaincu, j'ai été esclave. Et c'est ça qui fonde toute la mythologie du peuple hébreu. Avouez que c'est quand même incroyablement révolutionnaire. Et donc nous dit l'Ancien Testament, quoi que tu fasses, souviens-toi que tu es peu de choses. Souviens-toi que sans Dieu, tu ne serais rien. Et même par rapport à l'attitude dans le monde, c'est quand même, si on veut lire la Bible comme comme une sorte d'exemple moral, modèle de réaction étonnant, le peuple hébreu en Égypte est maltraité, esclavagisé, je vous l'ai dit. Comment a-t-il réagi dans cette situation insupportable, injustice ? A-t-il fait la révolution ? A-t-il fait la guerre ? A-t-il mis des bombes ? A-t-il fait du terrorisme ? Non. Il a dit très bien, on s'en va. On laisse la place. C'est étonnant, ça. Cette espèce de quasi, quelque chose qui serait vu comme une faiblesse aujourd'hui. D'avoir le courage de ne pas se venger, mais simplement de dire, vous me maltraitez, eh bien, je m'en vais. Je m'en vais. C'est tout. Extraordinaire. C'est la même chose que dira Jésus quand il envoie ses disciples en mission. Il dit, allez, prêchez-les à la bonne nouvelle. Si vous entrez dans une maison et qu'on vous reçoit mal, secouez la poussière de vos souliers et allez ailleurs. On ne peut pas moins belliqueux que ça, avouez. Et Abraham fera la même chose encore avec son beau-frère ou son frère ou son neveu, enfin c'est compliqué. Lot, ils se disputent, ils arrivent dans l'interpromise, ils se disputent, tout le monde se dispute. Et Abraham dit pas, c'est moi le chef. Abraham dit à Lot, écoute, on va pas se disputer. Choisis d'abord, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Après, vous allez me dire que l'Ancien Testament est un modèle de vengeance, de guerre, de brutalité. J'y vois tout le contraire, pour tout vous dire. C'est ça notre patriarche. C'est Abraham, notre puissant ancêtre. Oui, c'est lui, le père des croyants, celui qui, dans un conflit, dit à son adversaire, « Je te laisse décider, si tu vas à gauche, j'irai à droite, je te laisse la place. » C'est lui, notre patriarche, c'est lui, notre maître, c'est lui, notre père. Et même dans le grand David, le grand combat entre David et Goliath, vous me dites, là, il y a un combat, tu parles. Comment David a vaincu Goliath ? Un combat sans armes, sans armure, sans bouclier, par un enfant, juste par sa foi et par son intelligence. Ça aussi, c'est le message du sens de notre combat. Et c'est bien d'ailleurs ce qui est écrit en Samuel 17. David dit aux Philistins, « Tu marches avec moi, contre moi, pardon, avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Éternel des armées, certes, mais sans armes. » Et Gédéon encore, qui va gagner la victoire contre les Madianites avec une poignée d'hommes, et Dieu fait réduire de plus en plus le nombre des soldats jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Pas de guerre avec de troupes immenses, pas de guerre du tout, oui. Et mieux encore, le livre d'Esther, qui est lu dans la fête juive des Pourim. Le livre d'Esther, étonnant. Livre d'Esther, où, comment éviter le massacre de tout un peuple, comment rendre victorieux le peuple d'Israël, sans une goutte de sang, sans une arme, sans une bataille, sans une guerre, sans rien. Le livre d'Esther, c'est le triomphe de la non-violence et qui montre qu'avec intelligence, avec subtilité, avec foi, avec humanité, eh bien, on peut gagner infiniment plus que n'importe quelle guerre. À partir de là, vous allez me dire, l'Éternel des armées. Bon, certes, au départ, il était un peu guerrier, cet Éternel des armées, et il y a des guerres dans l'Ancien Testament. Mais ces armées et ces combats auxquels nous sommes invités, ce sont des combats dans les armées célestes. Vous savez sûrement que le mot « armée » en hébreu veut dire non seulement l'armée, le soldat, mais aussi les étoiles. Il n'y a qu'un mot en hébreu pour dire l'armée et les étoiles. C'est comme ça. C'est comme ça. Tsevaot, ça veut dire les étoiles, ou ça veut dire les armées du service militaire. Et donc, les armées célestes de Dieu, ce sont les étoiles. C'est le Dieu des armées célestes. Ça veut dire, dit-on, le Dieu du cosmos, le Dieu qui règne sur le monde entier. C'est pour ça que ça a été traduit en grec par Pantocrator, celui, alors, traduit ensuite en français par le Tout-Puissant, idiot. Dieu n'a jamais présenté comme exerçant une forme de toute-puissance dans le monde, mais c'est celui qui a la puissance sur le tout, celui qui a la puissance sur toute chose dans ce monde. Et donc, les armées de Dieu sont les étoiles. J'ai peur, mais justement, c'est bien, c'est pas une arme très violente, mais c'est un Dieu cosmique qui a la puissance sur toute chose. Mais quelle est l'arme et la violence et la puissance d'une étoile? Quelle violence? Aucune, sauf d'être une lumière dans la nuit. Et c'est ça le combat de Dieu, c'est le combat de la lumière sur la ténèbre, le combat de la foi sur le cynisme, le combat de la confiance sur le découragement et le désespoir, le combat de l'amour sur la haine. Et l'étoile, c'est la puissance lumineuse dérisoire dans la nuit. La puissance lumineuse d'une étoile, c'est rien. Vous mettez un détecteur de lumière, il n'y en a pas. C'est une puissance lumineuse dérisoire, mais qui change tout, parce que il suffit d'une étoile dans la nuit pour que la ténèbre ne soit pas victorieuse. Une étoile dans la nuit pour que la lumière soit. Et c'est ça la victoire de l'étoile. C'est ce que dit Jésus encore dans l'évangile de Jean. « Prends courage, petit troupeau, car j'ai vaincu le monde. » Lui, effectivement, ce petit rabbi, sans armes, sans armée, sans territoire. Et la puissance par laquelle le monde matérialiste et violent est vaincu, nous dit encore l'évangile de Jean, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.